On fait la suite, on continue le cours d'hier. Je reprends un peu rapidement. On avait expliqué que de chaque génération de tout temps, il y a, n'est-ce pas, il y a des tentations, il y a des passions qu'on doit surmonter, qu'on doit maîtriser. Il y a une forme de civilisation qui tire le monde vers un certain pôle, vers certains domaines. Et nous, ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, on doit a priori se libérer de cela. Pourquoi? Parce qu'en effet, tout cela, ça nous emprisonne. On est habitué à faire certaines choses parce que tout le monde le fait, parce qu'on se gêne de faire autrement, etc. Et là, la fête de Pessah, elle arrive pour nous dire, attention, tu arrives à une période qui s'appelle Zman Chelutenu. C'est le temps de notre liberté, c'est le temps d'être de nouveau des hommes libres. C'est-à-dire que on peut, à partir de Pessah, transformer notre vie, notre année. Alors, on va expliquer. Pessah, n'est-ce pas, c'est la première fête de l'année. Bien que l'année commence en Tichri, mais dans notre domaine, notamment pour les fêtes, eh bien, ça commence en Nissan. C'est pourquoi on dit toujours, il y a les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah, c'est la première fête de l'année. Pourquoi? Parce qu'en effet, nos ancêtres, eh bien, étaient esclaves en Égypte pendant plus d'une centaine d'années et ont été libérés de cet esclavage. Et c'est comme si on a fait de nouveau revivre, renaître un nouveau peuple à la fête de Pessah. Et c'est par cette liberté qui a été occasionnée au Bnei Israël, il y a des millénaires, que nous sommes devenus un peuple libre. C'est ça qu'on dit Zman Chelutenu. Alors chaque année, lorsqu'on arrive de nouveau à la fête de Pessah, eh bien pour nous c'est une occasion unique, un moment qui est propice pour réaliser en nous cette liberté. Donc, on avait expliqué hier que cette forme d'asservissement, de Sheboud, eh bien on la retrouve par rapport à la civilisation, par rapport aux normes, par rapport aux conventions de la société. Maintenant, on va expliquer encore d'autres formes de chibboud, d'autres formes dans lesquelles nous sommes asservis sans s'en rendre compte. Alors tout d'abord, il y a un domaine qui s'appelle les vices et les défauts. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir personnellement certains défauts, certains vices. Et des fois, on n'est pas conscient que c'est un défaut. Des fois, on est oui conscient que c'est un défaut. Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Même si on sait que c'est mauvais pour la santé, on n'arrive pas à s'en passer. Ça peut être, par exemple, la cigarette. Quelqu'un est conscient que la cigarette est mauvaise. Et je viens pas dire qu'il faut fumer ou pas fumer, n'est-ce pas? Pas ça mon sujet. Mais je donne un exemple pour dire que dans certains cas, quelqu'un est conscient que ça lui fait du tort, mais n'arrive pas à s'en séparer. Et il est en train de chercher de remèdes, comment se libérer de cette mauvaise habitude. C'est-à-dire que cet homme-là, il est plus libre de faire ce qu'il veut réellement. Il veut arrêter de fumer, il n'arrive pas. Et c'est pareil aussi, des fois, pour des simples tentations, certaines passions. Quelqu'un, il est esclave, il est asservi par son Yetzara, par ses mauvais penchants, par ses passions. Et il est conscient que ça le dérange, que ça l'emprisonne. Il veut s'en débarrasser et il n'arrive pas à se maîtriser, il n'arrive pas à maîtriser son instinct, son Yetzara. Des fois, ça peut être dans un autre domaine. Par exemple, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont te dire, eh bien, si le matin, je n'ai pas pris mon verre de café, eh bien, j'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à me concentrer. Alors, je viens pas dire que c'est mauvais de boire du café, buvez du café, c'est très bon, il n'y a aucun problème, ce n'est pas ça la question. La question est, c'est que si tu n'arrives pas à agir de façon normale dans plusieurs domaines, parce que tu n'as pas bu ta tasse de café, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un manque de perfection dans ta personnalité. C'est-à-dire que tu es dépendant de ton verre de café. Et c'est un problème, c'est une déficience dans la grandeur, la noblesse de l'être humain, de dépendre de quelque chose qui est tellement banal, tellement futile. Alors, on peut prendre du café, on peut prendre même de la cigarette, du whisky, ce que vous voulez. Mais à partir du moment où tu deviens dépendant de cela, et dès que ça te manque, eh bien tu es déboussolé, tu perds ton équilibre, tu deviens instable, là il y a un problème. Et là, le Torah nous dit, quand arrive Pessah, c'est Zman Chelutenu. À Pessah, eh bien c'est une fête, on va expliquer comment et pourquoi, c'est une fête grâce à laquelle tu pourras te libérer petit à petit de tes vices, de tes défauts, de tout ce qui t'emprisonne. De tout ce qui te rend dépendant, n'est-ce pas, de tous ces domaines desquels tu es dépendant, eh bien, tu peux, grâce à la fête de Pessah, si tu te prépares à l'avance et si tu fais cette fête comme il faut, tu peux être libéré de tout cela. Il y a d'autres exemples à citer. Il y a des gens, c'est très courant, qui ont, on va dire, un amour immodéré pour les honneurs et le respect. C'est-à-dire que, des fois, c'est une habitude parce qu'on l'a habitué. Des fois, c'est un tempérament, c'est un trait de caractère. Eh bien, là où il arrive, là où il débarque, il faut absolument qu'on le respecte, qu'on l'honore. Et si on lui a manqué de respect, eh bien, monsieur, il va piquer une crise de nerfs. Ou alors, même s'il n'a pas explosé, il va être mal en point pendant quelques heures ou quelques jours. Il va être vexé, il va se refermer sur lui-même, il va être déprimé pendant quelques jours. Eh bien, là aussi, c'est une forme d'asservissement. C'est que tu dépends de l'honneur et du respect des autres. En d'autres termes, ton bonheur dépend des autres. Quand est-ce que tu vas être content et heureux? Lorsqu'on t'a dit un mot gentil, une flatterie, un compliment, un remerciement. Et si on a manqué de te flatter, de te complimenter, eh bien tu es mal en point. Tous ces domaines-là, c'est une forme de chéboud. On est habitué à cela, on a besoin de cela, on dépend de cela. Et là, il y a un problème, c'est-à-dire que la Torah nous dit, un être humain, Hachem, t'a donné une neshama, une âme très élevée, très grande, eh bien qui peut a priori être indépendante de tout cela. Elle peut s'élever de tout ce qui est matériel, tout ce qui est bas, tout ce qui est vice et défaut, tout ce qui est honneur, tout ce qui est les normes de la société et toutes les conventions de la société dans laquelle tu vis, eh bien tu peux t'élever, tu peux te détacher de tout cela. Alors bon, c'est quelque chose qu'on peut réaliser toute l'année. Mais lorsque Pessah arrive, c'est un moment qui est encore plus propice à cela. On va citer encore d'autres exemples dans d'autres domaines. Même des, on va dire, des grands hommes, entre guillemets, entre parenthèses. Comme par exemple, des ministres, ou alors des présidents. Ben on sait bien, n'est-ce pas, de nos jours, que pour être président, il faut être élu. Alors, lorsque tu veux être élu, eh bien, tu mènes ta campagne électorale. Alors, bien souvent, une personne qui désire être élue, en tant que président, ou alors en tant que dirigeant de telle boîte ou telle société, eh bien, des fois, il va utiliser certains slogans publicitaires, ou alors une certaine campagne électorale, qui en fait ne va pas exprimer sa vraie identité. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il désire être élu. Et il va non seulement des fois tricher, mentir, exagérer, etc., mais des fois aussi, il risque d'adopter certaines idéologies, certaines conceptions qui en fait ne sont pas les siennes. Pourquoi? Parce qu'il désire pas cette place dans le monde de la politique. Parce qu'il désire accéder à cette place dans tel organisme, dans tel groupe. Et là aussi, eh bien, c'est un problème, c'est un manque de liberté. Tu dépends des autres, tu es prêt, c'est ce qui est grave, tu es prêt à renoncer à ta vraie idéologie personnelle, ce que tu es réellement, ta vraie identité, tu es prêt à la falsifier, à la fausser. Pourquoi? Parce que tu désires accéder à telle place. Tu as envie d'être élu, et donc tu es prêt, n'est-ce pas, tu es prêt à renoncer à ce qui te tient à cœur. C'est pourquoi le Midrash nous fait, n'est-ce pas, la louange, le shvar de Avram Avinu. Et c'est pourquoi Hachem l'a choisi pour commencer à Israël. Avram Avinu, comment est-ce que Hachem l'a mise à l'épreuve? Eh bien, la première épreuve qu'il avait, elle s'appelle Ur Kasdim. Avram Avinu a été éprouvé 10 fois de suite. La dernière, c'est le sacrifice de son fils Yitzhak. La première, c'était Ur Kasdim. Eh bien, Hachem a éprouvé Avram dans sa émouna, sa foi, lorsque Nimrod l'a menacé de mort s'il refusait d'être idolâtre. Alors le Midrash dit, eh bien, on va voir comment est-ce qu'Avram va se conduire. C'est un Midrash dans Shir HaShirim. Im delet hi natsura lea luach arez. Im choma hi nivne alea tirat kasef. Vim delet hi natsura lea luach arez. C'est-à-dire que On a dit au ciel, on va voir, on va vérifier comment est-ce qu'Avram se conduit. Im Chomaï, est-ce qu'il est une muraille, un mur? Si Imuma Amid Dvaraf Kechoma, si ses paroles, son idéologie, sa conception, eh bien pour lui c'est une muraille. Il est prêt à se jeter dans le feu pour sa vérité, pour son idéologie. Il ne va pas renoncer, il ne va pas se prosterner aux idoles. Alors, Nivna à la terre de Kassef, on pourra commencer à bâtir, à fonder le peuple d'Israël à partir d'Avram. Vem Deleti, mais si Avram se conduit comme une porte, tu la pousses à droite, elle va à droite. Tu la pousses à gauche, elle va à gauche. C'est-à-dire que, par aussi, il y a des gens, n'est-ce pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Tu lui dis si, il fait si. Tu lui dis ça, il fait ça. Ou alors, si il est intéressé par tel endroit, par telle place dans la politique ou dans n'importe quel domaine, eh bien, il va transformer, changer sa conception, sa politique, sa stratégie, selon, n'est-ce pas, le but qu'il est en train le but qu'il veut atteindre. Ça s'appelle une porte, une deleti. Donc, s'il est comme une porte, alors, dit le Midrash, c'est Avram est comme une porte. C'est que donc, s'il est menacé par Nimrod, alors il se prosterne à l'idole. Auparavant, il croyait en Hachem, etc. Il change du jour au lendemain. Alors on ne peut pas fonder l'âme Israël sur lui, alors on ne peut rien faire sur lui, il pourra uniquement, c'est-à-dire que sa survie, elle est uniquement dans une génération, et pas plus que cela. Et en effet, Abraham a dit, « Anichoma, je suis un mur, une muraille, je suis prêt à être jeté dans le feu pour, n'est-ce pas, pour conserver ma conception, mon idéologie. » Et d'ailleurs, son frère Haran, qui était aussi présent, qui était lui aussi menacé, alors auparavant il était croyant comme Abraham. Et lorsque Nimrod l'a menacé, lui il a dit, bon, je vais voir ce qui va se passer. Si Avram gagne la partie, je suis avec Avram. Si Nimrod gagne la partie, je suis avec Nimrod. Lui il a dit, on va voir qui est gagnant. Ce qui est le plus intéressant, eh bien, on va le choisir. Alors, Avram a été jeté dans le feu, éjecté dans ce feu, entre parenthèses. C'est un feu qui avait brûlé pendant 3 jours et 3 nuits. Et même les bourreaux n'ont pas réussi à jeter Avram dans ce feu. Parce que c'était tellement chaud et bouillant à quelques dizaines de mètres aux alentours du feu qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de ce feu pour jeter Avram dedans. Alors ils ont dû, n'est-ce pas, construire une genre de catapulte pour éjecter Avram, n'est-ce pas, de loin dans ce feu. Donc, et le Midrash dit qu'en effet, bon, Hachem a fait un miracle à Avram, il n'a pas été brûlé par ce feu, il se promenait dans le feu. Lorsque Haran a vu ça, il a dit, je suis avec Avram. Ben lui aussi, il a été jeté dans le feu, mais il a été brûlé. Pourquoi? Parce que Hachem dit à Haran, ta foi, ta émouna ne va pas dépendre de la réussite. Entre parenthèses, dans notre vie aussi, lorsqu'on fait la Torah et les mitzvot, on ne doit pas réaliser la Torah et les mitzvot uniquement lorsque ça marche. Jacques-Jean Guise, ok, je préfère Shabbat, mais ça dépend du chiffre d'affaires. Si quand je fais Shabbat, alors je vois, n'est-ce pas, que j'ai la même recette à la fin du mois, que je ne perds pas d'argent, ce que je manque le samedi, alors je le récupère dans la semaine, alors je suis prêt à faire le Shabbat. Mais si j'ai une perte considérable, de 20 ou 30%, des fois c'est même 50%, alors bon, le Shabbat c'est bien beau, mais ça sera pour une autre fois. Alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut que tu sois prêt à sacrifier ton argent, ton temps, ton énergie, beaucoup de choses pour le Shabbat. Une fois que tu es prêt à le faire, tu es prêt à le faire toute ta vie, c'est là où Hachem intervient pour t'amener la Géoula et la Yeshua. Sacrifier les besoins de sa famille, ça dépend de quoi, dans quelles conditions, quelles circonstances. Le Shabbat, a priori, ça passe avant. C'est Pikouach Nefesh, c'est autre chose. Ça dépend de chacun. On ne peut pas, a priori, c'est sûr que le Shabbat, n'est pas parce que sa famille aussi doit respecter le Shabbat. Alors on doit, a priori, dans tous les cas, respecter le Shabbat, même si, eh bien, une famille doit vivre dans des conditions très difficiles. Ça, sûr et certain. Pikouach Nefesh, c'est autre chose. Mais de nos jours, il n'y a jamais Pikouach Nefesh à cause du Shabbat. C'est un danger de mort imminent. Quelqu'un qui parle, n'a pas de quoi, enfin, de quoi manger, de quoi vivre, et c'est-à-dire que s'il fait son Shabbat, il a un danger de mort imminent tout de suite, ce jour même, là, c'est sûr qu'il doit transgresser le Shabbat. Mais ça n'arrive jamais en général. Top. Je ferme la parenthèse, on revient à notre sujet, donc c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'a dit Abraham, Anichoma, eh bien, je suis comme une muraille. C'est-à-dire que ton idéologie, elle ne doit pas dépendre de la réussite ou de l'échec. ton idéologie, elle ne doit pas dépendre de ce que les gens y pensent autour de toi. Et là aussi, n'est-ce pas, un président ou un ministre ou n'importe quel homme qui va transformer son idéologie pour accéder à telle place, pour réussir d'être élu dans tel organisme, eh bien, il est aussi esclave, il est aussi asservi par son respect, par son honneur, par sa réussite aussi. Ce que la Torah demande nous dit, attention, eh bien, Hashem t'a donné une neshama, ton idéologie, c'est une idéologie qui est du domaine divin, spirituel et moral. Tu ne dois pas le transformer, le changer pour arriver à tel ou tel degré, tel ou tel grade, telle ou telle réussite. Et si on le fait, eh bien, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'on dépend beaucoup trop de ces éléments qui sont beaucoup moins insignifiants par rapport à la grandeur de notre schéma, de notre âme. Encore un autre exemple. Enfin, on cite des exemples qui sont concrets de la vie courante, mais à chacun d'entre nous de voir, de vérifier dans quel domaine, eh bien, ces exemples nous concernent ou pas, ou de faire une projection et de voir dans quel domaine je peux appliquer cette règle sur moi-même. Donc, de nos jours, on pourra dire une des carrières les plus grandes, les plus importantes, eh bien, ce sont les chanteurs, pas les grands chanteurs qui réussissent bien, qui les occupent dans notre génération. Donc, il y a des chanteurs, n'est-ce pas, qui ont vraiment des millions de disques et de cassettes. C'est une grande réussite. Les acteurs aussi, c'est vrai. Mais là aussi, pas là aussi, eh bien, quelqu'un peut avoir une carrière bien réussie, vraiment une carrière du tonnerre. Il est apprécié, il est aimé, adoré par des centaines de milliers, par des millions de personnes dans le monde entier. Mais cependant, cet homme-là n'est pas un homme libre. Pourquoi ? Parce que lui aussi, eh bien, il peut, par exemple, choisir ses chansons, sa façon de chanter, son orchestre, non pas selon ce qu'il est réellement, selon, on va dire, son inspiration, selon ses affinités personnelles de sa propre âme, mais il va adopter sa chanson, sa façon de chanter et son orchestre selon la réussite, selon le pays dans lequel il vit. Ben, il sait que s'il va chanter par exemple un chant romantique et joli et classique comme il aime, alors bon, il aura quelques personnes qui vont l'apprécier, puis la salle va rester vide et son disque ne va pas être vendu. Alors il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va adapter, transformer sa façon personnelle de vouloir chanter, de vouloir s'exprimer par la chanson, par la musique, pour pouvoir eh bien, être le star des millions de personnes. Et là aussi, dans ce cadre-là, eh bien, une personne peut, dans ces conditions, perdre son identité, falsifier ce qu'il est réellement, et il devient à la merci, au service de la façon dont les gens réfléchissent et pensent que les gens apprécient. Là aussi, la Torah nous dit, lorsque vient Pessah, eh bien, tu as la possibilité de te détacher de tout cela. Pourquoi ? Parce que Pessah, c'est une transformation, une métamorphose de l'humanité, de l'être humain. Toi. Mais avant d'expliquer réellement ce que c'est Pessah, on va encore citer un autre exemple. Et là, ça concerne chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne, des dizaines de fois par jour. Alors, il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques mois, mais on va le répéter encore une fois. Toi. Alors, on avait cité Rabbeinu Yona, qui dit que il y a 10 ma'alot, 10 qualités essentielles que la Torah a données à l'être humain. Ma'alot et lionot. Pas le fait de pouvoir se rapprocher d'Hachem, d'aimer Hachem, etc. Une de ces qualités d'Rabbeinu Yona, c'est quoi ? Zekoar Abechira. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. La faculté de choisir et de prendre une décision. De dire oui, non, noir, blanc, droite, gauche. Bien, ça dit Rabbeinu Yona, c'est une ma'ala, c'est une qualité extraordinaire que Hachem t'a donnée. Tu as la faculté de faire un choix. Lorsque tu as une situation qui te rend à toi, eh bien, tu peux choisir, est-ce que tu vas faire ci ou alors tu vas faire cela. Top. Alors, dans le livre Alechou de Ravolvé, il commente cela Et il explique. Bah, il explique, il nous dit que, attention, il ne faut pas se tromper. Pas des fois, on peut se dire que, bon, je 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour, je prends une décision. Est-ce que je voyage ici ou là? Est-ce que je mange ci ou ça? Est-ce que je fais ci ou ça? Est-ce que je dis cela à mon camarade ou je ne dis pas, etc. Et on a l'impression que ces dizaines de fois par jour, eh bien, j'ai choisi, j'ai fait mon choix, j'ai utilisé ce libre arbitre que Hachem m'a donné. Eh bien, nous explique Rav Volbeck que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme dit Rabbi Yonah, c'est une mala, c'est une qualité extraordinaire qu'il faut mériter de pouvoir l'utiliser, l'exploiter. Un homme peut vivre des journées entières, des mois, des années entières, sans utiliser une seule fois ce qui s'appelle Koach HaBechira, cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. On va expliquer. D'abord, prenons un exemple. Imaginez que une mère dit à son enfant, je ne te permets pas de descendre en bas jouer au jardin. Et si tu descends au jardin, eh bien tu seras privé de ton chocolat que je devais te donner. Alors, un des enfants décide de ne pas descendre en bas, et l'autre enfant, son frère, lui, descend en bas, va jouer au jardin. Alors, dire que chaque enfant a fait son choix. L'un choisit de jouer dans le jardin en bas, l'autre a choisi plutôt le chocolat, c'est un tort. Dans les deux cas, personne n'a fait un choix. Personne n'a utilisé cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. Pour cet enfant-là, eh bien, la tentation du chocolat est plus importante que la tentation du jeu. Et pour son frère, Et pour son frère, c'est le contraire. La tentation de jouer a été plus forte que la tentation du chocolat. C'est-à-dire que un être humain, il est pris, il est tiraillé par ses passions, par ses instincts. Alors, dans certains cas, eh bien, c'est cet instinct, cette tentation qui va être plus forte que l'autre, qui va prendre le dessus sur l'autre. Dans l'autre cas, c'est l'inverse. Alors, on voit, n'est-ce pas, chez deux enfants, deux frères, bon, chez l'un, cette tentation est plus forte que l'autre. Des fois, chez une même personne. Aujourd'hui, eh bien, tu as plus envie du chocolat. Et demain, n'est-ce pas, tu as plus envie de jouer. Alors bon, c'est un exemple chez des enfants. Pour nous aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que pour nous aussi, eh bien, on peut prendre la décision de faire ci ou de ne pas le faire. Et bien souvent, on n'a pas choisi. C'est uniquement, on va dire, une mida, un vice ou un défaut, une habitude, etc., qui a été plus forte que nous. Alors, concrétisez la chose. Imaginez, bon, alors bon, on est ici dans une yeshiva. Alors bon, un jeune homme se réveille le matin. Toi, tu te réveilles, tu dis, est-ce que je me lève à la tefila ou pas? Est-ce que je rentre au cours ou pas? Toi, alors l'un va dire, n'est-ce pas, l'un a décidé de se lever, l'autre a décidé de ne pas se lever. Alors bon, ça peut être un choix, mais ça peut aussi ne pas être un choix. Pourquoi? Parce que des fois, tu t'es levé, pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'être mal vu par le rav, par le directeur. Alors, donc chez une personne, n'est-ce pas, il s'est levé à la fila, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être mal vu par les camarades ou par les rabbanim. Chez son copain, eh bien, c'est le contraire, il est resté dormir parce que la tentation, parce que la paresse, la flemme, a été plus forte que l'honneur qu'il va perdre par rapport à la société. Prenons encore un autre exemple. Quelqu'un qui a envie d'acheter un gâteau. Mais la pâtisserie, elle se trouve à quelques kilomètres à la ronde. Et donc, tu dois marcher sous le soleil ou sous la pluie pour acheter ton gâteau. Alors, l'un va y aller, l'autre va y renoncer. Là aussi, dire que l'un a choisi d'acheter le gâteau et l'autre a choisi de ne pas y aller, c'est un tort. Dans les deux cas, on n'a pas exploité, on n'a pas utilisé cette faculté qui s'appelle le Koach HaBechira. Dans un cas, eh ben, la tentation, la gourmandise, était plus forte que la paresse. Dans l'autre cas, la paresse a pris le dessus sur la gourmandise. Je ne veux pas dire que dans tous ces cas-là, on ne peut pas faire appel au choix, au libre arbitre. On va tout de suite expliquer comment, dans ces cas précis, eh bien, utiliser ce qui s'appelle ce koach bechira, cette faculté de choisir que Hachem nous a donné. Mais auparavant, c'est pour expliquer que dans tous ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu as fait ton choix, mais ce n'est pas un choix. Mais en fait, tu es uniquement emprisonné par ta tentation. Tu es asservi par ton vice, par ton défaut, par ton habitude de faire ci, de faire ça, ton laisser-aller. Et donc, automatiquement, tu n'agis pas par réflexion, par méditation, par choix qui va être vraiment indépendant, qui va exprimer ce que tu es réellement, ce qu'est ta personnalité, mais uniquement parce que ta tentation, ton vice, ton défaut, t'a poussé à le faire ou ne pas le faire. Donc, maintenant, comment se libérer de tout cela? Enfin, mis à part, pas mis à part, que la fête de Pessah peut-elle nous aider à opérer une liberté dans tous ces domaines-là? Mais dans ce cas précis, comment, lorsque j'ai une situation en face de moi, comment faire appel à cette faculté qui s'appelle le Koach HaBechira? Alors bon, l'énoncé, il est simple, mais ce n'est pas facile à réaliser. Ça prend des semaines et des mois pour comprendre comment ça marche, quel est le processus, parce qu'il faut aussi comprendre quel est le problème et pourquoi on n'agit pas comme ça en général. Et ensuite, n'est-ce pas, qu'on a compris ça, il faut se travailler un certain temps. Une fois qu'on arrive à le réaliser, ça devient facile, automatique. On va expliquer. Alors tout d'abord, dans n'importe quelle situation qui se présente à toi, alors il faut tout d'abord, le plus important, c'est ne pas se précipiter, ne pas être hâtif, ne pas prendre une décision à la va-vite, sans réfléchir auparavant. Il faut marquer un temps mort, bon, on n'a pas toujours le temps, mais si on peut le faire, il faut s'arrêter et il faut prendre du recul. Deuxièmement, il faut analyser la situation, c'est-à-dire, il faut décortiquer tous les éléments qui se présentent à toi. Qu'est-ce qui te pousse à faire ci ou à faire cela? Comme l'exemple précédent, eh bien, c'est comme si je me sépare, je suis déconnecté de la situation présente, comme si je m'élève sur un hélicoptère et je suis en train d'examiner ce qui se passe. Je suis en train de me regarder, pas de haut, comment est-ce que j'agis, et je réfléchis, j'analyse qu'est-ce qui me pousse à faire ceci ou à faire cela. Dans le cas précédent, j'analyse, je décortique et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui me pousse à acheter ce gâteau à la pâtisserie ou qu'est-ce qui me pousse à ne pas y aller. Est-ce que c'est une gourmandise ou alors parce que c'est pour ma santé ou alors parce que je suis curieux de connaître cette nouvelle pâtisserie ou alors parce que est-ce que j'ai envie de sortir un peu dehors, de sortir de la maison ou alors pourquoi est-ce que je ne veux pas y aller? Est-ce que c'est uniquement une de la paresse ou une autre raison? Il faut décortiquer et essayer de comprendre quelles sont les forces qui te poussent à faire ceci ou à faire cela. Quelles sont les tentations, les vices, quelles sont des fois c'est des bonnes qualités, quelles sont les qualités de cœur qui vont te pousser à faire ceci. Des fois ça peut être aussi une bonne action, une bonne, je dirais un chesed, n'est-ce pas, une bonté de vouloir faire ceci ou cela. Une fois que tu as réussi à analyser tous les éléments de la situation, et tu es conscient de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe, et tu as bien compris pourquoi est-ce que tu veux faire ci ou tu ne veux pas faire. C'est-à-dire que tu as vraiment pris conscience de toutes les forces, de toutes les, on va dire, les traits de caractère qui agissent en toi et qui te poussent à faire ceci ou cela. Et des fois, n'est-ce pas, tu as 3 ou 4 raisons de faire ceci, ainsi que 3 ou 4 raisons de ne pas le faire. Ensuite, il faut transmettre la décision à notre esprit. Parce que, dans le cas précédent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme ne réfléchit pas. Et il agit de façon instinctive, selon tel instinct, telle passion, telle tentation. Et c'est pourquoi, dans le cas précédent, eh bien, ce n'est pas le choix, ce n'est pas le libre-arbitre, mais c'est cette tentation qui était plus importante, qui a pris le dessus sur la tentation autre.
Attends.
On va arriver à la mitzvah. Attends, on parle pas. J'ai pris un cas général sans parler de mitzvot. Sans parler de mitzvot. On vient d'être au sujet. Alors, une fois, n'est pas que j'ai réussi à réaliser, à comprendre quelles sont toutes ces forces qui agissent en moi, là, avant d'agir, je me dis attention, je ne vais pas agir selon ma tentation, mais je vais transmettre ma décision à mon esprit. À mon esprit, à mon sechel, à mon da'at. Bon, a priori, il faut faire appel à la Torah précisément, mais entre parenthèses, même, on va dire, même sans faire appel à la Torah, entre parenthèses, on peut, dans certains cas aussi, agir avec un certain choix, certain libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai transmis la décision à mon esprit, et là, je réfléchis, et je vais agir, je vais décider d'agir selon une réflexion qui va être logique, qui va tenir la route selon certains critères qui vont être spirituels ou alors intellectuels ou moraux. Et une fois que j'ai réussi à faire cela, dans certains cas, ça va me demander de me maîtriser, de ne pas faire ce qui me tente. Des fois, ça peut aussi aller de pair avec ma tentation. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça parce que ça me tente. Maintenant que j'ai réfléchi et que j'ai pris une décision avec mon esprit, il se peut aussi que ce soit la même décision. Ce n'est pas toujours le contraire. Et une fois que j'ai agi dans ce cas précis, eh bien là j'en ai fait utiliser, exploiter cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. Maintenant, pour venir à ta question, dans le cas où c'est une mitzvah. Alors, pour une mitzvah aussi, bon, il est sûr que la mitzvah, c'est toujours une mitzvah, sûr et certain. Mais des fois aussi, on peut faire une mitzvah sans le koach habechira, sans avoir utilisé ce choix, ce libre arbitre. Ça change beaucoup. Tout d'abord, parce que c'est une ma'ala, c'est une qualité extraordinaire qu'on a bénéficié, et ne pas l'utiliser, c'est dommage. Parce que c'est comme si cette qualité, tu l'as mise de côté, et tu ne vas pas profiter de ses caractéristiques extraordinaires. Deuxièmement, ta mitzvah, c'est une autre mitzvah. Si tu fais une mitzvah sans avoir fait un choix qui va être droit, exact, pourquoi tu l'as fait la mitzvah ? Parce que tu es habitué de la faire depuis ton jeune âge. Parce que tout le monde le fait et tu ne réfléchis pas, tu fais ce que tu vois autour de toi. Parce que tu te gênes de ne pas le faire. Si tu ne fais pas la mitzvah, tu vas être mal vu. Donc c'est un autre niveau. Ça s'appelle mitzvah shel lishma. La mitzvah aussi, elle perd de sa qualité, de son importance, de sa valeur, si on la fait pour une raison secondaire, pour une raison qui ne va pas de pair avec la Torah. C'est pourquoi c'est si important, n'est-ce pas, d'utiliser, d'exploiter ce koach bechira, de s'habituer dans sa vie à connaître ces qualités qu'il y a en nous, cette qualité de choisir réellement, de ne pas faire cela parce que tout le monde le fait, parce qu'on est habitué, mais parce que c'est un choix. Et pour faire un choix, je dois me déconnecter de la situation, bien analyser tout ce qui se passe, et transmettre la décision à mon esprit, et ensuite agir. Et là, c'est un choix, n'est-ce pas, qui va être réellement libre. C'est ce qu'on appelle ça le libre arbitre. Tu n'es pas asservi, esclave de tes tentations, de tes passions, de ce que disent les gens, des conventions, n'est-ce pas, des normes, des habitudes, de la civilisation. Mais au contraire, tu as transmis ta décision, ton choix à ton esprit. Et là, n'est-ce pas, tu es devenu un homme libre. Alors, entre parenthèses, un homme libre, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui est un homme libre toute sa vie, Ashrech Elko, c'est extraordinaire parce que, bon, n'est-ce pas, c'est un niveau très élevé. Même si on n'est pas à ce niveau-là, eh bien, si on peut, n'est-ce pas, de temps en temps et très souvent, être un homme libre par rapport à certaines décisions, par rapport à certaines paroles, même si on n'arrive pas, n'est-ce pas, à transformer notre vie. Mais j'ai réussi à agir que dans certains cas, surtout, notamment, dans les grandes décisions de la vie. Eh bien, agir non pas selon les habitudes, selon les vices, selon, n'est-ce pas, la société. Mais j'agis en étant un homme libre. J'ai transmis ma décision à mon esprit, à mon sechel, à mon da'at, et chol sheken, n'est-ce pas, si c'est, ça va de pair avec la Torah, c'est là où on atteint l'harmonie, la perfection de la neshama, eh bien, c'est encore plus louable, encore plus estimable. Et ça, la fête de Pessah vient nous dire, il faut d'abord se rendre compte qu'on est esclave, se rendre compte qu'il y a un problème. C'est dans la parashat Vaera, c'est écrit, Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Arba, Leshonot shel Gula. On a quatre formes, quatre langages de Géoula, de délivrance. La première délivrance, c'est quoi, dit les commentateurs? C'est d'abord que les bénis Israël prennent conscience qu'ils sont esclaves. Le pire d'esclavage, d'asservissement, c'est lorsque tu es esclave, tu es servi et tu ne t'en rends pas compte. Les Israël, en effet, étaient, puisqu'ils ont travaillé pendant 116 ans, étaient esclaves, fils d'esclaves, petits-fils d'esclaves. Ils ont connu que cela. Il fallait leur expliquer qu'il y a un autre monde, qu'il y a un monde de la liberté. Alors pour nous aussi, tout d'abord, se rendre compte qu'on est pris dans un courant. Qu'on agit non pas selon ce que nous sommes réellement, ce qu'on peut être selon notre identité réelle, mais on agit, on fait cela parce que tout le monde le fait. Non seulement on agit, on réfléchit, on pense, non pas selon ce qu'on peut penser réellement, mais ce qu'on a été habitué de penser selon l'espace, selon ce qu'on a vu, entendu par les médias, etc. Et une fois qu'on a pris conscience de cela, il y a encore un travail à réaliser en soi. Et bien, ce qu'on a expliqué, c'est vraiment se déconnecter, analyser tout ce qui se passe en nous et ensuite transmettre ça à notre esprit et agir. Et là, je dis encore une fois, c'est que la fête de Pessah, eh bien, c'est un moment qui est très propice. S'y préparer à elle pendant 30 jours, ensuite fêter cette fête pendant 7 jours, d'être transformé en homme libre. Zman Chevouten.